Alors évidemment, comme on a la chance d'avoir David avec nous, on va l'exploiter un maximum et on va lui donner quand même la parole d'entrée de jeu pour qu'il puisse un peu expliquer sa démarche qui me semble assez évidente dans les films, mais qui parfois aussi nécessite quand même des informations peut-être plus théoriques qui sont pas forcément évidentes dans les films, bien qu'il y ait beaucoup de réflexions, je pense, sur la manière de faire des films qui sont investis dans à la fois la qualité du travail de caméra, le travail de montage, le rapport individu-collectivité, la vie à l'intérieur d'un lieu, comment est-ce qu'on fait exister un lieu. Enfin, toutes sortes de réflexions qui sont des problèmes très importants de la cinématographie. Alors, David.
Non, mais je comprends là.
Ah bon, magnifique.
J'ai tout compris, oui.
D'accord.
Alors, I believe this discussion this morning,
parce que la discussion que nous avons eue ce matin, on nous a demandé de
different strategies that
parler des stratégies
might follow
que
to,
suivent les réalisateurs
pour
représenter l'expérience du quotidien, comment dans différentes sociétés, dans différentes communautés,
actually experience
les
the world
gens
around them,
perçoivent le monde autour d'eux.
I might just throw out a couple of,
et je pourrais me permettre de lancer des possibilités de stratégie et
probably
ensuite
also add some other,
ajouter d'autres possibilités et
but
continuer
it seems
à discuter.
To me that,
il me semble
there are a number of different means by which
il y a différents types de moyens
bring the audience
qui
into the experience
nous permettent
of other
de faire entrer le public dans l'expérience des participants. Bien sûr, on ne peut jamais avoir l'expérience d'autres personnes, il faut bien le comprendre.
Filmmakers may try to bring us
mais
close
les réalisateurs
in the
peuvent
same
nous rapprocher
a novelist, for example,
comme
might,
peut le faire un romancier qui essaie de nous faire percevoir la vie intérieure de ces personnages.
Sur,
nous ne pouvons pas entrer dans leur tête.
Find different
nous pouvons
ways.
Les observer et nous pouvons trouver des manières
one of
diverses
the primary methods
de le montrer.
Is through identification,
l'identification est l'un de ces moyens
with particular protagonists
avec
in,
tel
in
ou tel
films.
Des participants protagonistes du film.
A novel,
et c'est la même chose que dans un roman.
In the same way that an author will,
de même qu'un auteur
develop certain characters we become
va
close
élaborer
to.
Particulièrement
in
des caractères
films, we
pour rapprocher son lecteur. Dans les films aussi, nous pouvons suivre des
and
personnages
by, in a sense, looking over their shoulder,
et en regardant par-dessus leur épaule,
have a sense of their experience,
avoir une perception de leur expérience et nous intéresser à eux et essayer de sentir comment ils vont affronter les défis qu'ils rencontrent. Je pense que c'est un élément important, cette identification. Et il y a la dimension narrative. Il y a des films qui suivent avec le protagoniste des événements. C'est l'une des stratégies, trouver une personne
in the field,
sur le terrain
que
nous allons suivre de près avec la caméra et développer une histoire, développer une narration
so
autour de cette personne. L'une de ces stratégies, c'est l'identification.
Another, I think, is simply observation.
Une autre, tout simplement, c'est l'observation.
You know, if we observe closely,
quand on regarde de près
how people respond to
la manière
their
dont
circumstances,
les personnes réagissent
if
aux circonstances,
on on their face,
regarde,
if we
suivant les expressions dans leur,
people,
sur leur visage, leur comportement, cela nous permet de voir comment ils réagissent à la vie. Cela ne demande pas forcément qu'on s'identifie à eux. On peut ne pas les apprécier.
Observation,
mais l'observation de près de la part du réalisateur permet d'arriver à obtenir ce sens de leur subjectivité.
So, that might be a second strategy.
On pourrait dire que c'est une deuxième stratégie possible.
The third,
la troisième
stratégie would be something more than
serait quelque chose qui va plus loin que l'observation.
participation with the subjects of our films.
Avec
perhaps we'll talk about this more this afternoon, but
it seems to me the kind of interaction
that you can have with somebody on the screen
as a filmmaker sur l'écran, en étant réalisateur,
can produce, again, a sense of their response to you as a filmmaker.
Of course,
the clearest example is through interview.
But interviews can be very
formal,
they can be
very
informal, they can become,
in fact, a kind of conversation that
develops throughout the film. So this would be a more,
let's say, a more participating role for the filmmaker, a more provocative role
sometimes.
I think the last... the last strategy I would mention would be the evocation of sensation itself,
l'évocation
des sensations
en tant que telle,
through its objects,
par
through
la
its
personne
colors,
qui éprouve,
through its textures.
Par exemple, les couleurs,
this the filmmaker
les textures.
Does by paying attention visually and through sound to these small details of life, whether it's a plastic cup or a table
de la vie,
or somebody's hands,
une table, les mains de quelqu'un, un
the textures
verre,
of the things that are all around
textures
us.
Des choses qui nous entourent.
This is important also.
Je crois que c'est quelque chose d'important
giving the audience a sense
pour
of
que le public
experiencing
et l'impression d'avoir l'expérience du monde.
I think these are some of the things you could begin to consider.
Quelques points de départ. Je pense que c'est mon point de départ.
Peut-être que je peux te poser un peu la même question, parce que tu es confronté à ces problèmes depuis pas mal de temps aussi. Micro, micro.
Après cette vue globale et générale du film qui tient compte de l'expérience subjective, je vais dire des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre. Moi, je pense que les films qui veulent s'approcher des personnes et qui cherchent à entrer un peu dans leur vie, ce qui me paraît tout à fait essentiel, c'est la confiance. C'est-à-dire, c'est l'empathie qu'on peut avoir avec les gens. Et c'est, bon, pour tous les films documentaires que nous faisons, nous cherchons toujours à avoir une relation. Mais je crois que quand il s'agit de la vie quotidienne, où on veut s'approcher au plus près, alors là, vraiment, il faut une véritable confiance. Et ça prend un certain temps, en général. Il faut que les gens soient parfaitement naturels, le plus naturel possible, et pour ça, vraiment. C'est ça. Donc moi, j'insisterai sur l'aspect confiance, relation en profondeur avec les gens. Et empathie. C'est Eva Toulouse là, qui s'occupe de la traduction, qui a attiré mon attention là-dessus. Le mot empathie, même, au fond, que je n'utilisais pas. Et je crois qu'elle a raison. Elle dit que dans la traduction, on fait attention à avoir une certaine empathie avec la personne qui parle. Et je crois que pour le cinéma, c'est aussi ça. Il faut qu'il y ait une relation qui s'établisse avec la personne que l'on va filmer.
D'accord. Alors, Peter, avec la sorte de triple expérience qui est la tienne d'être à la fois un enseignant d'anthropologie visuelle, un cinéaste et aussi quelqu'un qui couvre le champ de l'anthropologie visuelle par l'activité de la revue, et le suivi des festivals, etc. Alors, comment tu te situerais dans cette problématique?
Well, that's true, and that's a bit of a balance every
vrai,
now and then. By the way, I think I've just discovered that I think we may have a problem in this round.
Je me rends compte que on aura peut-être un problème dans cette table ronde. Nous serons peut-être trop d'accord. Mais peut-être Laetitia, vous pourrez dire quelque chose contre moi.
I would like, as Colette, to take my point of
Colette,
departure again in something concrete,
which is
actually
bringing
concret, together the fields that you're
mentioning
of both anthropology, filmmaking, but also teaching, ethnographic filmmaking. On my way here, I was at the International Ethnographic Film Festival in
Festival
Göttingen, and was
de
David,
Göttingen,
by the way, for a couple of days.
David était aussi.
And in the student section, there was a film by a Swiss student about a very spectacular phenomenon, which is called parkour. I don't know if you're all familiar with parkour, but it's young people,
parkour,
it's a kind of subculture which is spreading rapidly around the world, where they climb official buildings, staircases, and do a kind of acrobatics.
Qui font de
it's what I would call a kind of a sophisticated hip-hop culture, with more acrobatics involved.
Une sorte de culture hip-hop and it was avec interesting
because less than 12 months ago, I saw another student film about exactly
mois,
the same
j'ai
phenomenon,
vu un autre film
and I'd never heard
phénomène,
about it myself before. This was a film from Manchester.
Un film qui a été
and the point I wish to raise initially is this thing that, what is everyday life? Now,
this
phenomenon, parkour, is extremely spectacular. And you can't help but be seduced by images of it because it's almost like fiction you're watching. But yet, for these young people who perform it or do it, it is to them everyday life. It's what their life is full of. And in both films, I think they did the strategies that they chose had to do with the fact that they didn't quite know how to deal with the spectacularity of the phenomenon, which meant that the film, not only did the viewer get seduced by the spectacle, but the film itself got seduced by it, which meant that they never really got round to getting the subjective voice of the people in the film. What they, both films did was, you saw these jumping around and climbing buildings, and then it was intercut with interview sequences, but rather formal interview sequences rather than the conservation type, which distanced you completely from the people themselves, which meant that you never ended up getting any kind of impression or knowledge or perhaps even building up an empathy for these people. And I think it has a lot to do with how we can manage to deal with everyday life that is spectacular and how we get drawn to spectacularity because that's perhaps what we consciously or unconsciously think that people want to see. It's spectacular, I find it spectacular, therefore you find it spectacular, which I have no problems with unless it actually means that we never get access
que
to the people
on n'arrivera jamais à toucher la culture de ces personnes que nous montrons dans ce type de film.
I think, as Colette is getting at, that it has a lot to do with the amount of time that you spend together with people.
Beaucoup de choses dépendent du temps que vous passez avec les gens. Je voudrais introduire la notion de patience dans ce contexte.
Being what I would describe as one of the most important aspects of ethnographic filmmaking, as opposed to many other kinds of filmmaking or indeed television productions. Where
la différence de production télévisuelle,
an overarching important role in ethnographic filmmaking, not only the fact that we stay a long time in the field,
essentiel non seulement parce que nous sommes
David
sur le terrain pendant longtemps,
dans
tous les films que David a fait, il a passé énormément de temps.
Mais
quand nous sommes
shooting,
sur le terrain, quand nous commençons à filmer,
nous
pouvons être patients quand nous commençons. Il y a au moins trois niveaux de patience dont il est question. Patience avec les personnes que nous filmons,
some of whom become protagonists,
qui deviennent pour certains des protagonistes, mais nous avons tendance à nous concentrer sur des personnes qui permettent de construire une narration, qui permettent de reconnaître des gens. Mais il y a aussi une patience avec
d'autres
types de personnes qui sont moins explicitement présentes.
Hit and run filmmaking, fly in a crew, they're there for a very short time. And fly out again.
Par
so they
exemple,
never have the patience
vous arrivez très rapidement sur un terrain
kind of
et souvent dans la télévision, c'est ce qui se passe, on n'a pas le temps de construire la conscience, la confiance. La deuxième dimension est une question de patience avec la caméra, c'est-à-dire le type de filmage que je mentionne, c'est qu'on filme quand il y a de l'action. Dès qu'il n'y a pas d'action, on arrête la caméra.
Et on
part du principe que le sens, la connaissance, part de l'action. Alors qu'en tant qu'anthropologue, nous savons que très souvent, la plus grande partie du sens ou de la connaissance est générée quand il n'y a pas d'action.
And that is a dilemma,
et là, on a un dilemme. Et
about that point with the camera, what it means, for example, is
en fait, cela veut dire qu'on peut laisser la caméra allumée et cela vous permettra peut-être de capturer le moment qu'on n'aura jamais à la télévision parce que les gens sont trop impatients. Et le troisième type de silence que l'on rate,
les 30
secondes de silence sont essentielles parce que le silence peut être significatif. Le troisième élément est la patience du montage, parce que quand on fait le montage, on peut le faire de manière patiente en relation aux gens et à la caméra. Souvent, on voit des films qui sont impatients, qui ne sont pas disposés à rien montrer sans action.
On va encore plus loin,
qui n'ont pas de spectaculaire. Dès qu'il n'y a rien de spectaculaire, il faut avancer parce que personne n'est intéressé. Et ça, c'est un énorme problème
que
nous sommes en train d'aborder dans le film ethnographique. Je crois que ces problèmes, ces dilemmes,
le fait de pousser
le concept de patience, d'utilisation ou non de ce concept,
est
quelque chose qui a émergé grâce au film de David McDougall. Et nous en avons vu des exemples aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes impatient, donc je passe au micro. Le micro. On pourra revenir à ce que vous dites. La littérature a en fait traversé le même type de problème.
Oui, mais je peux continuer aussi sur ce que disait Peter. So I totally agree with what you said. See? Et justement, parce que dans le dernier livre de David McDougall, il parle aussi de certaines caméras qui peuvent être totalement aveugles. En fait, parce que ce n'est pas une question d'être un bon opérateur ou de savoir utiliser une caméra, mais c'est de savoir quoi regarder avant d'utiliser une caméra. Et donc David parle de ces caméras aveugles qui peuvent être des caméras de surveillance, mais qui peuvent aussi être un défaut quand on est jeune réalisateur, de chercher l'image, de partir à la chasse un peu à l'image, à la situation, et d'être toujours dans l'impatience de trouver quelque chose d'intéressant à filmer. Et c'est un peu le... Quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu un film de David McDougall, c'est un peu le choc que j'ai eu. C'est que c'était de la vie quotidienne et je voyais des gens qui me parlaient directement, j'entendais leur voix et je voyais cette autre exotique, notamment donc en l'occurrence une femme africaine, qui me parlait directement et je comprenais tout ce qu'elle disait parce que c'était sous-titré. Et je disais, mais... Ça, c'est juste évident, et puis en même temps, c'est d'une force incroyable. Et j'ai commencé à me demander pourquoi je n'avais jamais vu ça avant. J'ai commencé même à douter, à me dire, bon, j'ai dû voir des films comme ça avant, mais je ne m'en souviens pas. Et en fait, je me suis aperçue que non, je n'avais jamais vu ça avant, et je trouvais ça complètement incroyable qu'un dispositif aussi simple, finalement, juste de regarder les gens vivre, de leur parler, de les écouter, et de faire partager ça, pouvait être d'un si grand impact. Et ce qui est important dans cette confiance qu'on peut avoir avec les gens, c'est aussi la confiance qu'on a en son propre regard. C'est-à-dire que quand on a un dispositif aussi simple de filmer la vie quotidienne et d'écouter ce que les gens ont à dire, il faut avoir confiance aussi en son propre regard, dans le sens où ça peut paraître un peu prétentieux de penser que les autres vont trouver ça aussi intéressant. Donc il y a aussi cette confiance en soi, en son propre regard, de dire si j'ai regardé ça et si cela m'a intéressé, peut-être que ça va intéresser aussi les autres. Donc de simplement partir sur cette confiance en l'autre, en son propre regard, en sa propre expérience subjective justement, en se disant si moi-même j'ai ressenti cela, ben, je vais essayer de le partager tout simplement.
Moi aussi, j'ai trouvé que dans les films de David McDougall, il y a quelque chose qui est très difficile à expliquer avec des mots, qui est que très souvent, quand même, le cinéma cherche des séductions. Il cherche à filmer des objets séduisants et faire partager cette séduction à d'autres. Or, dans les films de David, il y a quelque chose qui a l'air de sortir de la matière elle-même. Ce n'est pas un effet d'imposition de l'esthétique sur l'objet. L'esthétique sort de l'objet. Et c'est très difficile de dire pourquoi un endroit qui est moche, avec des murs souillés, avec des choses démolies, des enfants perdus. Il y a une sorte de poésie qui est très puissante, je trouve, et qui est, à mon avis, un point fort de l'anthropologie visuelle, parce que, à moins d'être peut-être, je ne sais pas moi, Charles Dickens ou Gustave Flaubert, on peut difficilement faire ça avec des mots. Et donc là, je suis très content qu'on ait sorti de la période objectiviste de l'anthropologie visuelle, où on filme des objets comme des hommes de science, comme s'il y avait quelque part un point neutre qu'on pourrait atteindre, mais que plutôt c'est, comme dit un peu Laetitia, c'est la qualité du regard qui fait voir, c'est quelque chose qui crée une manière de voir. Et donc c'est comme ça qu'on appréhende des objets. Et alors, je voudrais ajouter juste un petit point sur la question de la parole. Enfin, Peter a parlé du silence, qui est très important. Je ne sais pas s'il y a des experts du silence dans le cinéma. On peut penser à Kiarostami, Depardon, David. Enfin, même plus près de nous, Stéphane Breton, il y a une qualité du silence dans les films. Mais il y a aussi une qualité de la parole. Et alors, moi, je fais des choses qui m'amusent beaucoup en ce moment. C'est que, bon, j'ai fait beaucoup de films avec des contraintes de genre de télévision. Enfin, il faut raconter une histoire, il faut être dans un certain format, il faut essayer d'être passionnant très vite, hein, d'une manière impatiente et tout ça. Or, maintenant, j'essaye, comme anthropologue, pas tellement pour le cinéma, de filmer des interviews qui ne sont pas vraiment des interviews, qui sont des sortes de petites provocations que je lance, un débat par exemple sur les relations hommes-femmes dans une société où ça ne se fait pas de parler de ça comme ça. Et ça crée un espace de discussion et du coup les gens se mettent à parler entre eux et moi je ne suis même plus là. Je continue à filmer mais je n'interviens plus du tout. Et je trouve ça très très intéressant parce qu'il y a une sorte d'effort pédagogique d'une culture qui réfléchit sur elle-même avec une petite stimulation extérieure qui n'est pas très, très importante. Et ça crée vraiment quelque chose de très différent d'une interview. On dit qu'est-ce que vous pensez d'eux comme ça. Voilà.
Oui, je voudrais juste ajouter à ce que tu as dit que c'est la chose que nous voyons beaucoup dans la Turkana, par exemple. Voilà. Les conversations Turkana, absolument. C'est exactement ça.
C'est ça, oui.
Je suppose que vous avez, David, proposé un sujet, tu as proposé quelque chose, mais après, c'est eux qui en parlent entre eux complètement, voilà. Dans leurs termes, avec leurs propres références. Ça, c'est très, très important.
C'est performatif.
Absolument. D'ailleurs, j'ai projeté ce qu'on va voir ce soir, je l'ai projeté à Malte, à un public général. Il y avait une centaine de personnes à peu près. Et les femmes, ça m'a beaucoup frappé, les femmes ont dit « Mais c'est la même chose chez nous. Les hommes se conduisent de la même façon, ils disent les mêmes choses. » Il y avait un rapprochement de culture à travers la façon dont c'était filmé. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre ces femmes maltaises et les femmes turkana, en fait. Mais oui. Finalement, elles se retrouvaient dans toutes les discussions, parce que les discussions étaient vraies, elles touchaient vraiment à la profondeur de l'humain, d'une certaine façon.
Alors, David...
I could comment on something
je pourrais commenter un point
Laetitia has said, and also
qui a été présenté par Laetitia
first of all,
et par Peter.
Peter mentioned
Peter a parlé du spectaculaire, des choses qui sont censées être excitantes, intéressantes.
And in fact, these are the most
et ce sont les films les plus difficiles à faire, les sujets qui sont spectaculaires,
performatifs.
Je crois que nous sommes souvent séduits en disant « Ah, ce sont des films les plus faciles. » Un rituel spectaculaire, par exemple.
Un cirque.
Quelque chose qui est, où il y a énormément d'action.
Ce sont souvent les films
les plus ennuyeux. Peut-être parce que ce sont des performances et que nous restons loin, nous n'arrivons pas à pénétrer l'expérience des personnes concernées dans ces événements. C'est une fausse attraction produite par la télévision. Ils se disent on a besoin d'un sujet excitant et si on va faire un film sur un cirque ou sur un rituel spectaculaire, ce sera intéressant pour le public. Mais quand j'ai commencé à faire les films sur l'école d'élite,
avec la télévision britannique support part of this production.
Qui était censé financer une partie du commissioning
editor.
Et puis ils ont changé de personnel.
That's always potentially a huge change.
Et c'est un changement potentiel considérable.
What about this film that
et je leur ai écrit et je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites
de ce film. We'll
et on m'a répondu en disant nous ne sommes pas intéressés, nous ne le ferons certainement pas
subject,
parce que ce type de sujet a été tenté et ça ne fonctionne jamais.
So, donc, it was topic driven very much, this,
c'était un choix qui était basé sur le sujet.
Patience. Ce que je voulais dire sur la patience self-confidence that,
et sur la confiance en
that
soi
you mentioned, Laetitia, about having confidence in your own vision,
l'idée d'avoir confiance en son regard
de
ce qui vous intéresse sera intéressant.
Je pense que in your audience,
il faut avoir aussi confiance dans le public,
your audience,
il faut respecter
and
son public
believing that your
et être
audience
convaincu
will find value
que
in the things
le
that value
public
in.
Trouvera des valeurs dans ce qui pour vous est précieux. Ce terrible manque de respect pour le public qu'est-ce qu'on trouve dans la télévision. Ils essayent en permanence de générer de l'énergie par le spectaculaire. C'est un manque de respect.
Ça me rappelle une petite anecdote. Un jour, je visionnais des films avec une... On était répartis par binôme, deux personnes pour visionner des films. Et je me trouvais avec une dame qui était américaine. Et pendant qu'on visionnait le film, on devait donner un jugement sur ces films, elle faisait tout le temps comme ça. Et alors, à un moment donné, ça me gênait quand même un petit peu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je coupe. Parce que les plans étaient trop longs. Et elle faisait... Bon, c'était épouvantable, bien évidemment.
Oui, par rapport au manque de respect du public, c'est toujours cette surenchère d'explications. On veut toujours expliquer et prétendre que le public ne comprendra pas. Et on se retrouve tout le temps confronté à ça. Donc il faut avoir confiance en ses projets pour dire mais non, je vais aller jusqu'au bout et essayer de monter le film de telle manière en disant je suis sûre que les gens vont comprendre. Et c'est quand même fou de devoir se battre comme ça en disant, même si on argumente, en disant bah, vous-même vous avez compris, moi-même j'ai compris. Alors pourquoi les gens ne vont pas comprendre tout simplement
Il y a peut-être aussi une petite chose qu'on peut dire aussi qui est rassurante, c'est que, par exemple, Jean-Luc Godard annonce la mort du cinéma depuis bientôt 40 ans maintenant, mais le cinéma se porte bien dans les salles. Et donc, des événements comme celui-ci, où on regarde les films de David, non pas sur un DVD avec un moniteur, un tout petit moniteur en face de soi, mais dans une salle avec d'autres gens, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se battre pour que ça continue, parce que c'est une toute autre expérience. Et la vraie expérience du cinéma, elle est là. Parce que à quoi ça sert de filmer en 16/9, en prenant soin de la lumière, de la couleur, du son, la qualité du son de la mouche qui passe, etc., pour après le voir sur un petit bignou où on ne voit rien, on n'entend rien.
Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt d'intersubjectivité en l'occurrence, j'ai trouvé la caméra dans... Gandhi's Children très, très subjective, et il y a de l'interaction entre manifestement le cinéaste à travers les plans approchés, etc. Enfin, c'est très techniquement maîtrisé, et puis il y a une médiation, puisque moi j'étais complètement dans la maison en quelque sorte. Oui. C'est là où je veux en venir à cette intersubjectivité.
Mm-hmm. Oui, c'est très juste. L'expression « on est dans la maison » convient très bien au film de David. C'est pas facile à faire dans un film de dire qu'on est vraiment là. L'espace, c'est très difficile à rendre au cinéma. C'est pas si évident. On le voit quand les étudiants font leurs premiers essais, nous-mêmes aussi, etc. C'est pas évident d'être dans un vrai lieu avec des vrais gens. Ça réclame une certaine obsession presque de la qualité des plans qu'on fait, quoi. Enfin, je ne sais pas si je trahis David.
I agree, and I think one thing we need to think about is the
nous devons penser
the variety of ways
c'est
in which the filmmaker's
différentes subjectivity comes through the film. D'exprimer la subjectivité du réalisateur. Il y a eu une sorte d'obsession sur l'auto-réflexivité dans les années qui viennent de s'écouler,
and I think
que le réalisateur doit toujours manifester
shot,
sa présence. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans chaque cadre que le réalisateur doit être présent.
La
spécificité de la vision du réalisateur derrière
and
la caméra
so the filmmaker's
doit être là.
Presence, I think, should
la présence du réalisateur
film,
doit, être,
you aim to do,
doit
it's,
imprégner
it's
l'ensemble du film. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut réaliser, c'est le résultat de votre engagement de la part du réalisateur.
Un
engagement par rapport à une vision particulière.
As much or even more in this, at this level than a much more explicit kind of
à ce niveau-là,
interaction with the subject,
dans le cadre d'interaction avec le sujet. C'est important, on peut avoir des films merveilleux dans lesquels la dimension interactive est essentielle. La subjectivité du réalisateur existe à cet autre niveau.
Réflexivité, c'est la parole sur soi-même. Et donc là, on a par exemple ces films où on voit quelque chose, on voit des relations avec les gens, et le cinéaste parle de son complexe d'Œdipe, par exemple. Et donc, c'est pas ça pour moi la réflexivité. La réflexivité, c'est qu'en regardant le film, on se dit tiens, c'est pas un zoom, tiens, c'est pas, on n'est pas trop près, on n'est pas trop loin, on n'exploite pas l'enfant parce qu'on essaye de le presser comme un citron, on mesure la distance et tout ça. C'est ça la vraie réflexivité, me semble-t-il. Enfin. Alors, peut-être une autre question
oui.
dans la.
Oui. Ah, oui, je voudrais revenir sur le silence, ou plutôt les silences, parce que je crois que le silence, il est multicouche, et qu'il n'est pas simplement sonore, il est aussi visuel, il nous est arrivé à tous. D'être à la caméra et que d'un seul coup il n'y ait plus de lumière et par contre il y a toujours du son. Donc faut-il couper ou faut-il continuer? Je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas couper au bout des 15 secondes. Il faut continuer parce que le son nous donne à voir quelque chose, même si on ne voit plus rien à ce moment-là. Et ce silence-là, il est important. Et d'ailleurs, tu parlais d'Abbas Kiarostami dans Shirin.
Oui.
On entend un film qu'on ne voit pas.
Oui.
Et finalement, ce silence visuel, on le comble par une autre image qui est celle des spectatrices. Et c'est au visage des spectatrices qu'on finit par voir le film qu'on ne voit pas. Mmh. Donc là, le silence, c'est à différents niveaux, je crois. Et alors, dans le film que nous avons vu tout à l'heure de David, au début, moi, j'ai été impressionné, justement, par ce multicouche. Il y a un son qui intervient à plusieurs niveaux. Et j'avais l'impression qu'on entendait un monstre qui est en train de dormir, qui ronfle, on entendrait le bruit de ses entrailles, c'est la ville. Il y a des sons qui sont les sons de la ville. Et se détache de ces sons de la ville des sons plus fins qui sont des petits coups qui nous ramènent à une vie qui est celle des individus. Et donc là, alors qu'on va entrer dans un lieu, dans cette école, avant, on sent qu'il y a quelque chose autour, quelque chose d'étouffant, même si le matin est beau, s'il y a la brume, il y a ce bruit qui continue tout le temps, qui est présent en permanence. Et donc là, on voit bien qu'il y a un traitement multicouche du son et des silences aussi.
Alors là, ça mène une question sur la. Enfin, si David accepte de révéler ses recettes de fabrication, mais est-ce que cette qualité du son. On sait que le travail sur le son est très ancien. Si on regarde des gens comme Cavalcanti dans les films des années 30, 20 même, il y avait un travail très, très élaboré sur le son. Mais parce qu'il y a deux stratégies, soit essayer d'avoir sur le terrain des sons les plus intéressants possibles, soit se contenter d'une manière stricte des sons synchrones, ou encore faire des mixages, ce que la plupart des documentaristes font en ayant plusieurs pistes sonores sur lesquelles on travaille. Alors je ne sais pas si tu acceptes de livrer un peu tes...
Well. Sound is something that,
bon, le son...
is very difficult.
Il y a quelque chose qui est très difficile, souvent considéré qu'il est plus difficile d'avoir un bon son que de belles images. Je n'ai pas de secret sur l'utilisation du son parce que je l'ai traité de manière fort directe.
I believe in And especially when you're working alone.
Spécialement quand on travaille seul.
This Gandhi's Children, I was making completely by myself.
Ce
I was
film,
shooting,
je l'ai fait tout seul.
The editing. So,
j'ai fait la caméra, le son, le montage.
Non,
c'est important d'avoir de bons micros.
You know, attached, not directly on the
donc,
camera,
non
but,
pas de microphone, micro sur la caméra, mais un micro extérieur.
Also working close enough to people,
suffisamment près
anyway,
des gens, ce que je fais de toute manière.
And I'm conscious of sound, of the ambient sound of such a,
du son d'ambiance dans une
the echoing sound,
c'est-à-dire l'écho,
sort of
but, ce genre de choses.
I do take some separate yeah. sound.
Alors,
I do use
du
sometimes
son
several layers
il m'arrive d'avoir différentes
editing,
couches
so
dans le montage, mais pas
so
trop.
C'est ce qui veut dire que vous avez peut-être remarqué sur le carton d'invitation qui est magnifique, où on voit David jeune, en 68, je crois, mais on voit que sa caméra n'est pas tout à fait normale. Il l'a un peu trafiqué, et donc là aussi, pour pouvoir la porter aussi confortablement. Et là aussi, donc, tu as construit un petit bras pour porter le son à l'endroit, à l'angle que tu veux. Ce n'est pas le micro comme ça. Il y a donc cette vieille tradition des, comme je sais pas, des rouches, etc., qui continue à améliorer la caméra, à travailler sur sur la machine elle-même.
Of course, when you're shooting with 16 millimeter or 35 millimeter,
quand on travaille en 35 mm ou en 16 mm, c'est très difficile de faire le son tout seul. Je l'ai essayé dans un film.
Extraordinarily hard.
Et c'était terriblement difficile.
So in the past, of course,
donc,
we used to work always with.
On devait toujours
travailler.
Si j'avais la caméra,
Judith
prenait le son. Ou quelqu'un d'autre.
I found that working alone
j'ai trouvé que travailler
with,
seul
this, high definition video now
avec les vidéos
creates
haute définition
rapport with
crée
the subject.
Un rapport
and,
très différent avec le sujet.
Even though the sound
et même
is maybe more difficult,
si le son
well worth it to try
est
to make
plus difficile, cela vaut la peine de faire un film où l'on gère le tout.
Could I add something?
Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose?
Because I think there's an important aspect
here. Je crois qu'il y a une dimension importante ici.
If we take the excerpt we saw from Gandhi's Children this morning,
si on prend le passage que nous avons vu de Gandhi's Children ce matin, ce sont les 60 premières minutes d'un film de 3 heures.
The sound is crucial.
Et le son
think,
est absolument essentiel parce que c'est le son qui crée la sensation.
It's not an establishing shot. It's an establishing environment of the whole school, and that is done much
cadre,
better in many
cases
by sound.
Et c'est vrai que le son le crée peut-être même mieux. Et bon, c'est un peu difficile de rendre compte des autres sens comme l'odorat. Je pense que l'odorat ici aurait pu être assez terrible pour la création de cette sensation.
But it is important and probably important. In a way which in many in a way that in many ways is superior to that of the visual image on,
même
it, on its own.
À celle
but the other thing
la,
I just
want
to mention about subjectivity and intersubjectivity, speech, individuality.
That
the first part of the film that we saw this morning, all the sound was not had nothing to do with the vococentric with speech. And again, as soon as words are then introduced, I think we get caught off balance and we start listening to sound in a different way because now we're trying to concentrate on interpreting the words that are being said. Whereas in the beginning where there were no words being said really, or not many, we're concentrating so much on the sound that it does give us this sensuous experience. As soon as words are introduced, which they have to be,
et
it makes us listen in a different mode, so to speak.
And
then perhaps we start to tend to forget, unless we then get a long enough sequence without words again to get us back in that listening mode.
Si
so it's both
longue,
recording of sound to establish a certain sensation, but it's also a mode of listening
mode
that we have to become accustomed to.
Non,
and again, just a final remark there,
finale,
we are struggling with the difficulty that most films, documentary films, and again,
documentaires, et notamment les films télévisuels, ne peuvent pas tolérer l'absence de son s'il n'y a pas de son. Le public, c'est-à-dire nous devant la télévision à la maison, nous allons prendre la télécommande et passer sur, un son, sur une chaîne où il y a du son.
Mais je poste pas.
Ah oui. I think when I look at your films,
quand je regarde votre
film,
j'ai toujours l'impression d'une sorte de maîtrise de l'attention. J'ai
la
sensation que vous êtes dans un état méditatif alors que vous filmez.
Le
type d'attention que vous donnez à votre environnement, aux gens, devient de plus en plus détaillé. On a le sentiment que vous suivez ce type de mode d'attention, ce qui peut expliquer la qualité de votre image. Mais le problème que je rencontre, c'est que cet état où vous nous amenez n'est pas partagé par beaucoup de gens. Il y a peu de gens qui sont prêts à partager, à prendre le temps, l'attention pour entrer dans ce monde. Est-ce que vous pouvez...
On a la ciné-trans maintenant, on a la ciné-méditation.
Ciné-méditation. Je pense qu'il y a un état spécial dans lequel on entre quand on filme. C'est une hyper-sensation du monde. On perçoit le monde à la puissance 2 ou 3 par rapport à ce que vous faites sans la caméra. C'est quelque chose que la caméra provoque. La caméra vous rattache au monde.
It does put you into a state in which
cela vous met dans un état.
You often, for example, will
souvent
do really stupid things like
vous allez faire des bêtises.
You'll stand
des choses
in a very
idiotes,
dangerous
c'est-à-dire
place.
Vous trouvez dans un endroit très dangereux parce que ce qui vous intéresse n'est pas le danger, mais
the world of the film that
ce qui
you're creating,
vous intéresse, c'est le monde du film que vous êtes en train de créer, le monde que vous avez en face de vous.
But as far as audiences entering into this,
mais
I think it goes back to what I was
public,
saying about confidence in the audience.
Pense, ça revient à la confiance dans le public.
If we're successful in getting 25% of the audience
réussissons à avoir 25% du public
to understand our film,
qui comprend notre film,
with our film,
qui
that's enough, you know,
entre en sympathie avec notre film, cela suffit.
It's the same with writing a book
c'est
or
la même chose
poetry.
Quand on écrit de la poésie ou quand on écrit un livre, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde entre dans votre
style,
univers, que tout le monde entre en contact avec votre style.
Say, well,
il y a des gens qui
know,
disent
you make these films, but
vous
not
faites
many
ces films, mais il y a
them.
Peu de gens qui les voient.
But then you think of the typical academic,
mais si on pense aux thèses universitaires qui deviennent des livres, et il y a peut-être, elles apparaissent à 300 exemplaires, et trois lecteurs, dont un est l'auteur
well,
et les deux
know,
autres les
examinateurs. Viewers,
bon, nous
enough.
Avons quand même quelques
okay,
milliers
yeah.
de
and
spectateurs,
time,
et cela suffit.
More.
Et il y en aura plus au fil du temps. Du moins
alors sur l'intersubjectivité, j'avais envie de poser une question aussi sur le fait que moi j'ai filmé beaucoup de choses et je retourne sur ces cassettes, je les réécoute, je les retraduis parfois, je les écoute avec d'autres gens, je retourne sur le terrain et je les réécoute. Alors je suis frappé par le fait qu'il y a énormément de choses qui m'avaient échappé, qui sont hors champ, mais qui sont dans le son et qui parfois parlent de moi. Et donc c'est même parfois un problème. J'ai voulu récemment même filmer un rituel, mais il y a plein de gens qui sont derrière moi et qui parlent de moi. Et donc le son est intrusif et on dit regarde-le avec son bec, il est en train de vous prendre et tout ça. Et donc c'est inexploitable sur le plan. C'est-à-dire si j'avais voulu filmer le rituel convenablement, j'aurais dû demander aux gens de se taire ou de ne pas parler de moi ou je ne sais pas, avoir une sorte de contrat avec eux pour filmer la scène pour elle-même. Et parfois, c'est vraiment drôle d'écouter ce qui se dit. Je me rappelle aussi avec Jacques Lombard et Michel Fielou à Ouaga. Ils avaient passé tous les films qui avaient été tournés chez les lobbies du Burkina Faso. Et puis, les lobbies du village avaient été invités. Ils étaient là et ils riaient tout le temps, alors que nous ne rions pas du tout. On ne voit rien de drôle dans les films. C'est parce qu'ils entendaient des sons off. de gens qui commentaient les cinéastes, quoi. Et donc parfois c'est plus difficile qu'on te croit d'avoir simplement d'être oublié, hein, ou bien d'avoir des interactions efficaces aussi, parce que pour que l'interaction soit aussi bonne cinématographiquement, il faut une certaine qualité de son, il faut qu'on voit qui parle, et ça c'est pas facile.
Je voulais simplement rebondir un peu sur les, bon, sur les silences, sur les voix off, etc. Donc moi, j'ai eu une expérience au Congo. Et effectivement, quand vous montez un film, mettons qu'on vous dise, bon, 30, je ne sais pas combien de minutes, il faut que ça fasse 52 minutes si vous voulez que ça passe, etc. Donc on a 15 heures de rush et on va sortir.
Parlez fort parce que...
Ah bon, on a 15 heures de rush, par exemple, ou plus, et finalement on doit sortir moins d'une heure. Enfin, donc vraiment couper. Alors on parlait tout à l'heure du silence qu'il fallait garder, mais je pense que si on doit garder tous les silences, on n'arrivera jamais à faire les 50 minutes. La deuxième chose, c'est que évidemment les voix off qui parlent de vous, j'en ai eu tout le temps quand j'ai pas eu mon film, mais j'ai gardé parce que j'ai tout fait traduire. Mmh. Et puis il y a un moment, c'est vrai que ça, pour le public, ça lui donnait l'impression d'être là et de comprendre que la vedette, par exemple, elle disait oh « Oui, mais moi, c'était une sortie de rituel. Hein. Oui, ça va aller en France, ils vont me regarder, je suis belle, j'ai bien... » Enfin, etc. Elle était tout le temps en train, pas de minauder, mais de montrer son importance, parce que c'était elle la reine de la... Mmh. La reine de la... Du rituel. Donc, en fait, ce qui est peut-être gênant aussi, c'est quand on ne voit pas qui parle aussi et qu'on entend derrière. Voilà. Si on fait tout traduire, même ce qui est en voix off, on peut quand même couper si vraiment ça commence à devenir bien, parce que là, autrement, on aurait eu, je ne sais pas moi, peut-être, si on additionne tout, une heure ou deux heures sur les 15 heures tiens, regarde-moi, tiens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils vont nous emmener, c'est ça, est-ce qu'ils vont nous voir, est-ce que nous, on va aller en Europe avec eux, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est important parce que ça donne de l'importance et ça montre aussi comment le tournage du film est reçu par la population et par entre guillemets, les vedettes. Mais on ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout garder et on ne peut pas tout supprimer non plus. Mm-hmm. Parce que ça donne aussi le contexte dans lequel ça se fait, l'ambiance générale autour du sujet, etc.
Oui. Donc c'est la clé de l'affaire, c'est aussi la patience dont on parlait au début. Hein, c'est que passer l'effet de la présence de la caméra. Quoi. Oui, Peter.
Yes, you... I think it is patience, and in this case, it's also about persuading the broadcasters to show something longer than 52 minutes.
Is important, but you're raising one important aspect, I think, which sort of permeates the discussion really,
but we haven't addressed it directly yet, which is the question of filming in different cultures.
And because the whole notion of silence,
for example, is very different in different cultures. And I won't make a long story of it, but as we all know, some cultures are extremely noisy in the sense that there's constant noise.
Others cultures
are very silent.
Qui sont très
and this is not necessarily
et
saying that, that in Spain you always have the television
Espagne,
running in the bars and it's constant noise. You have all the children running around, etc. If you go to northern Norway,
the only thing
you can hear is the wind and things like that. But it's also about people, again, when we're talking about breaking silence and then bringing in speech and subjectivity and subjective voices again.
In some cultures, it's much easier to get people to speak in front of a camera and say what you would like them to say for cinematographic and anthropological reasons.
In other cultures, it's almost impossible, either on camera or not on camera.
And
again, we don't need to distinguish between the sort of European culture and non-European culture, even within our diversity of European cultures. If one were to film in Denmark, where I live, for example, you went to Copenhagen,
et si vous allez
you'd
à Copenhague,
have to switch off the microphone
il va falloir fermer le micro,
enfin,
parce que les gens de Copenhague
would keep on talking until you do so anyway.
But if you film in the western part of the country in rural areas,
you might have to have the camera and the microphone turned on forever before you grab a simple
yes, that's right. Allumé avant we have to acknowledge these differences and find ways of dealing with them in ethnographic filmmaking. Oui, c'est vrai.
Comme le paysan dans le film de Depardon là qui dit il y aurait beaucoup à dire et puis il se tait.
Mais j'ai rebondi sur le beaucoup à dire. Enfin, bon, vous focalisez pas mal sur le 52 minutes, mais enfin, moi j'ai remarqué une chose travaillant pour le festival Jean Rouche, c'est que depuis quelques années, les réalisateurs ont deux versions de films. Effectivement, ils ont la version télévisée 52 minutes, mais ils ont leur version à eux. Et en festival, je dois dire que c'est à nous de présenter leur version, de sortir de ce sentier battu des 52 minutes, du format télévision. Voilà.
Qui est souvent le format qu'on espère passer à la télévision, mais qui ne passe jamais non plus.
Oui, enfin, de temps en temps, quand même, Arte.
De temps en temps.
On a de la chance.
One comment about silence
sur
in
le
films,
silence dans les films.
I would also call it spaces.
Et j'ai envie de l'appeler aussi espace dans
I
les films.
I think we have to, and we really haven't talked about this so far.
On n'a pas vraiment parlé,
a film
mais
is constructed often like a piece of music.
It has un morceau de musique.
It has rhythms, it has variations
il y a des rythmes,
in tempo, in pacing,
des
and so forth.
De rythme,
and this is just as important. It's not simply a reflection of our subject. It's the way in which
the film establishes its own language, its own
form of address to the audience and creates a certain mood, a certain receptivity toward the subject. So,
une sorte d'humeur
films require space, they require air to breathe at times, they require changes of pacing and the spaces that allow us as an audience to enter the film somehow in our own imagination.
Dans notre imagination.
And, the 52 minutes, in a sense, if you say you have to cut the film down to 52 minutes, I have no problem with that.
Si on vous dit, bon,
but then you shouldn't destroy
film,
the pacing and the
bon,
rhythm of
faire,
your film
mais il ne faut pas
just to make it 52 minutes. You just
do
less in 52 minutes.
Oui, Thierry Garrel avait une métaphore qui était assez cruelle. On disait très souvent, on coupe le bébé parce qu'il est trop grand pour le berceau. Et, bon, c'était une manière cruelle de... parler des commissioner editors. Plus de questions ? Une question là ? Oui, monsieur
peut-être
là-bas.
Pour revenir sur la construction des films de David, peut-être c'est. Il faut voir que dès 71, avec Living with Earth, il nous met dans la maison, même si là il n'y a pas de maison, mais c'est vraiment ça aussi. Il met le spectateur d'emblée sur le terrain, au milieu du campement. Mm-hmm. Il y a toujours cette manière un peu de travailler, justement, sans explication. Parfois, dans des films, on donne tout dès le début. Hein. Il faut tout expliquer. Mmh. On est quelle tribu, quel pays, qu'est-ce qu'ils font tout de suite. Alors que lui, quand même, il place les gens d'emblée sur le terrain. Mmh. Et qu'au fur et à mesure, on découvre. Oui. On élargit comme ça notre perception de leur monde, notre compréhension aussi qui va en grandissant. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, on laisse la part de réflexion au spectateur aussi.
Oui.
C'est-à-dire, au début, il ne sait rien sur ces gens-là, il n'y comprend rien. Et au fur et à mesure, on lui donne des informations à partir de leur vie quotidienne. Mais on s'aperçoit qu'il y a toujours un contexte plus large. Et c'est ce qui intéressait aussi les MacDougall au départ. C'était quand même de toujours montrer ce contexte plus large, les relations avec l'extérieur, même si les gens avaient un terrain délimité.
Oui.
Et que ça, c'est... C'est intéressant, parce qu'on a toujours l'impression de voir des films où les gens sont complètement isolés, ils n'ont aucun contact avec les autres, soit ils sont là depuis la nuit des temps, et puis on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Mm-hmm. Donc il y a plein de commentaires comme ça qui ne servent à rien, alors que finalement, le spectateur, tout seul, peut quand même à comprendre plein de choses, et qu'on aimerait bien pouvoir faire ça aussi à l'écrit.
Oui.
Parce qu'il peut y avoir aussi cette dimension-là.
Mais en fait, si on regarde bien les anthropologues qui ont un certain succès, disons même universitaire, pas seulement un succès de librairie, on s'aperçoit qu'ils écrivent très bien aussi. Et donc, je pense qu'on a un peu souffert d'une opposition artificielle entre science et art. Et en fait, le cinéma doit utiliser ses propres ressources. C'est ça qui est très beau dans les films de David MacDougall. C'est que c'est par les moyens du cinéma qu'on... Alors, peut-être c'est l'idée du corporeal image. Je sais pas si c'est peut-être un peu tard pour développer ça, mais c'est quand même un concept intéressant. Qu'est-ce que c'est que le corporeal image?
C'est le titre d'un livre qu'a écrit David. Donc,
well, non. This book is really touching on many aspects of the relationship
qui aborde différents aspects de la relation du corps humain au film,
the film, it's the body of the filmmaker in relation to the subject,
du réalisateur vis-à-vis du sujet,
it's the embodiment of emotion,
c'est l'incarnation de l'émotion,
of the senses, many aspects really,
il y a de nombreux aspects qui sont
this
abordés.
Book deals with in sometimes in quite oblique ways, but
parfois de manière tout à fait oblique.
So I don't know. I think we come back to this idea of intersubjectivity.
Nous revenons à l'idée de subjectivité que vous avez soulignée tout à l'heure.
How we create images with our bodies and how we perceive them in a physical way.
Nous percevons les gens de manière physique.
Add one point about which might be misleading if we think that simply by putting
nous induire en erreur
unmediated experience on the screen that this will necessarily be of interest to anybody.
We non have to et que
realize that filmmakers have to be extremely clever, extremely strategic in the way in which they introduce the material of the films to bring the audience into that world. It can't just be placed before you like a slice of life and you can't expect that to be enough in itself. So it's a
une tranche de vie et s'attendre à ce qu'en soi cela marche. Donc il faut être créatif,
viewer,
comprendre la psychologie comme vous la percevez. Il faut emporter le public avec vous.
Il y avait un monsieur là, oui. Pour rebondir un peu sur la réflexivité justement dans l'approche cinématographique, je voulais savoir à quel moment on se pose la question pour qui on fait le film ? Est-ce qu'on fait le film pour soi ? Est-ce qu'on fait le film pour les personnes qu'on filme, justement ? Ou est-ce qu'on le fait pour le public qui va voir le film ensuite ?
Big question.
Peter ?
Well, we are paying homage to David McDougall here,
nous rendons hommage à David McDougall, donc je parlerai de ses films.
He started off this morning saying that he always makes long films. That's not quite true because he has made a few short films. And one from the same series as To Live with Herds, the Among the Ye in Uganda, is called Under the Men's Tree. And among other things, I think it's about reflexivity and the various levels of reflexivity that Jean Paul was referring to. What is fascinating about that film, referring to the questions of intersubjectivity, reflexivity, silence and action, is that in this very short film, which is about these cattle herders taking a break because the sun is too hot, so they go into the shade and they just sit around and talk to each other and joke with each other. And it's marvelous because it is really a film about an incident in the everyday life of these cattle herders in which nothing happens, so to speak.
And I think it's
perhaps one of your most
ethnographic films, David,
because you're capturing an ethnographic reality out there that is of no interest, perhaps initially, than to others than anthropologists.
The reflexivity comes in
not only in the intercultural relationship between the filmmaker and the subject in the film, but also because they are discussing the subject, that is, about their subjective interpretations, not only of everyday life, but of all sorts of things that we find hilarious as a Western audience to listen to, and especially at this stage, they're talking about Einstein's theory of relativity, in a sense, when they're talking about how fast motor cars can drive, although we're in a part of Africa which at the time was not exactly exposed very much to
alors que
c'est une
partie d'Afrique qui n'avait pas beaucoup de contact avec le monde étranger.
Donc
ce film est un film où vous résumez la question de la réflexivité.
What we're trying to do both as filmmakers and anthropologists.
But I think the only thing that makes that film work is the fact that they're having a discussion about a kind of reverse ethnographic discussion about
the behavior of motor cars
and the drivers of motor cars as they perceive that.
These are,
you know, cattle herders who have spears and who live very far from this kind of world. So you could take another 15 minutes of men sitting under a tree in which there's just miscellaneous chatter, and it would be uninteresting, I think, I mean, except to a specialist. And I think the reason that film works is because it's a selected piece of conversation that we find quite interesting. But in answer to the question about audience, who do you make the film for? I think, of course, you make it for yourself, in the sense you have to satisfy yourself. As a filmmaker, that you feel it's a successful film in your terms, that it's not cheating, that it's not... aesthetically successful from your point of view. But I don't like the idea of trying to make films for a specific target audience outside, because I think films can have multiple audiences. And we found this again and again, that you take the same film and you show it to a university audience, and then you take the film and show it to an audience of quite uneducated people. They may, if it's a good enough film, they will both get something out of it.
Well, it was just a very short comment of one of the horrid aspects of teaching visual anthropology, which is that we actually have to teach our students to make their 30-minute film, that's the institution that's saying it can only be 30 minutes, to reach one audience, and that's their external examiner. That's our main preoccupation. We have to make a film that will satisfy the external examiner. Now, fortunately, we usually manage to get them to make films that attract the attention of a much wider audience. But I would say it's an extreme limitation imposed on ethnographic film made by students, by the institutions in which they're produced, and we're constantly struggling with that.
À laquelle nous sommes confrontés tout le temps.
Non, moi, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Non. Spécialement.
Oui, c'est un énorme problème. Moi, j'aime assez l'idée de... Bon, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est l'idée de Todorov, du surdestinataire. Parce qu'en fait, si on fait ce métier d'anthropologue, c'est pas pour des résultats rapides. On sait bien que, je veux dire, pour 10 minutes de bons films ethnographiques, combien de travail investi? Pour deux pages d'ethnographie un peu consciencieuse, combien de temps de notre vie, etc. Donc, on ne fait pas ça pour un résultat immédiat, pour une target, une cible. Il y a une sorte de surdestinataire. C'est pour plus tard, pour un jour, peut-être dans 50 ans, quelqu'un va faire une thèse sur ce film ou s'y intéresser ou relire ça. Enfin, c'est assez joli, cette idée du surdestinataire, je trouve.
Cette question de pour qui on fait le film, c'était la question que Rouge posait toujours au festival. Oui, oui, oui. Pour qui as-tu fait ton film? Et puis à un certain moment...
Pour moi d'abord, il disait.
Mais Rouge le posait aux autres. Hein.
Oui.
Lui, on n'a pas besoin de savoir, on savait, c'est la réponse. Mais il le posait aux autres. Et effectivement, à partir d'un certain moment, disons il y a peut-être une quinzaine d'années, ça n'avait plus de sens. Parce que tout le monde disait... pour le public général, pour la télévision. Et en fait, il y avait tout le temps derrière cette idée que ça allait passer partout. Il y avait des millions de téléspectateurs qui le verraient, etc. On sentait que c'était plus vraiment... On ne pouvait plus avoir vraiment une cible précise.
Oui.
À un certain moment, c'était plus clair. C'était pour les scientifiques, pour les gens du pays. Enfin, puis à un moment donné, c'était general public, tout le monde. Quoi.
Et puis alors, il y a une chose choquante quand même, c'est que bon, on a des institutions qui commencent à nous aider sérieusement. La preuve, c'est qu'on est ici à la BNF, mais ça reste très difficile de voir des films. Hein. Il y a des films qu'on a vus il y a 10 ans dans un festival, et pour les revoir une deuxième fois, c'est vraiment dur.
Il faut demander à la BNF de les acheter.
Voilà.
Merci beaucoup. Non, non, non.